Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur a parlé ce matin à chacun d'entre nous. Comme l'a dit Michael tout à l'heure, il y a une parole où il nous invite à écouter. Je perçois ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, mais je voudrais être avec vous assis pour écouter aussi, parce que je crois que ce n'est pas Jérôme qui est là pour vous parler, mais c'est le Seigneur. Il utilise un canal, l'un ou l'autre, comme il veut. Mais c'est important que vous puissiez entendre sa voix, et que moi aussi, je puisse l'entendre avec vous ce matin. Je voudrais ouvrir le Saint-Livre dans l'épître de Paul aux Éphésiens, avec vous, au chapitre 1er. Nous allons trouver dans ces quelques versets que nous allons lire le thème principal de notre partage ce matin, le titre de ce message ce matin dans ces quelques paroles. Ce sont des paroles bénies. Éphésiens chapitre 1er, verset 1er, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est « Sauver » pour glorifier Dieu. Souvent nous disons sauver pour servir, et c'est une dimension importante, fondamentale. Nous avons été sauvés pour être utiles entre les mains du Maître. Ça c'est une grâce extraordinaire, déjà le salut, n'en parlons pas, mais aussi que Dieu veut se servir de nos vies. Nous avons été sauvés pour servir, mais il y a une dimension encore plus forte et plus grande pour notre vie, sauver pour glorifier Dieu. Trois fois dans ce passage extraordinaire, vous avez vu toutes les énumérations des bénédictions en Christ, trois fois dans ce passage, au verset 6, il est fait mention que le plan éternel de Dieu pour chacune de nos vies, il est fait pourquoi ? Verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce. Au verset 12, afin que nous servions à célébrer sa gloire, et comme ça ne suffit pas, verset 14 rappelle, pour célébrer sa gloire. Alléluia, extraordinaire. Dans les premiers versets de cet épître de Paul aux Éphésiens, Paul nous montre comment Dieu nous bénit, Tous ces versets, rien que de les lire, on peut tomber à genoux et adorer le Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à tout ce que nous avons lu? Le dessein bienveillant de Dieu, pas avant votre naissance, avant la fondation du monde, avant que tout soit créé, ça nous dépasse. Dieu nous montre comment il nous bénit de toute bénédiction spirituelle. Mais il nous montre aussi pourquoi il le fait. Pourquoi il nous a sauvés. Il nous avait prédestinés à célébrer la gloire de son nom. C'est ce que nous faisons chaque fois que nous nous retrouvons ensemble pour célébrer le culte. Je rappelle que le mot culte vient d'un mot qui signifie adorer. Chaque fois que nous nous réunissons ensemble, nous voulons glorifier son nom. Il y a à peu près trois dimensions dans le temps de culte que nous vivons ensemble. Il y a le temps, la dimension, vous savez, de la communion fraternelle. C'est important, la communion fraternelle. Nous nous exhortons, nous nous édifions, nous nous consolons, nous témoignons comme notre frère l'a fait. Nous nous encourageons, nous prenons le pain et le vin ensemble. Nous nous consolons, nous nous accordons devant le Seigneur. La dimension de la communion fraternelle, c'est extraordinaire. Il y a aussi une autre dimension, c'est bien sûr l'édification des saints, que ce soit par les dons spirituels, que ce soit donc par cette exhortation mutuelle. Nous sommes édifiés par l'enseignement également de sa parole. Il y a une dimension, bien sûr, de notre culte où il y a une édification de chaque enfant de Dieu. Mais il y a une troisième aussi dimension, c'est l'adoration de Dieu. Le culte, c'est vraiment un moment privilégié pour nous unir les uns les autres dans le but d'adorer Dieu. Nous nous oublions nous-mêmes pour nous plonger dans les perfections invisibles de Dieu avec le seul but de le glorifier. Et de ces deux, trois dimensions, à la fois la communion fraternelle, l'édification des saints et l'adoration de Dieu, je dirais selon ce qu'enseigne la parole de Dieu, que la priorité absolue doit être pour nous l'adoration. Parfois, dans l'organisation de ce temps, parce qu'il faut l'organiser, l'heure tourne vite, mais suivant l'importance que l'on peut mettre à des temps, la musique, le chant, etc., on peut diminuer une dimension par rapport à une autre. Et tout à l'heure, j'avais vraiment à cœur de vous encourager, je l'ai même dit aux frères, que nous puissions prendre le temps de nous unir ensemble pour louer le Seigneur. Sauver pour glorifier le Seigneur. Vous savez, parfois, après le culte, c'est pas mal, moi aussi je le dis. On a eu un bon culte ce matin. Je me suis fait du bien. Il vaudrait peut-être mieux dire à ce matin, nous nous sommes prosternés ensemble. Nous avons adoré le grand Dieu de l'univers. Je lui ai donné le meilleur de moi-même. Et j'espère que son cœur s'est réjoui. C'est vrai qu'il y a une dimension de ce que nous avons besoin et nous sortons bien souvent fortifiés, encouragés de ces lieux. D'ailleurs, en se tournant vers lui et en nous oubliant nous-mêmes, on se rend compte que finalement, il nous édifie en même temps. Et combien c'est important ce matin. Faisons peut-être aussi la différence, je crois que vous le faites, avec l'action de grâce et la louange. C'est important de venir devant le Seigneur avec action de grâce. Mais ce n'est pas la louange. C'est différent parce que l'action de grâce, finalement, elle tourne autour de ma vie, de ce qu'il a fait, de ce qu'il pourvoit. Et donc, en définitive, je suis tourné sur le plaisir de ma vie. Tout ce qui entoure les bienfaits propres à ma propre vie. Et nous avons besoin, au travers de la louange, de nous élever vers Dieu. Si on faisait un petit peu la différence entre l'action de grâce et la louange et l'adoration, c'est un petit peu comme lorsque vous vous mettez à table, vous bénissez le Seigneur pour le pain qu'il vous donne, pour tous ces victuailles que vous avez en abondance. Et la louange, ce serait d'élever les yeux vers Dieu et de louer celui qui a créé toutes ces graines, qui donne la semence, celui qui tient toutes choses dans ses mains. N'oublions pas, c'est le thème principal ce matin, que nous avons été prédestinés à célébrer la gloire de son nom. Alléluia. On se sent petit pour partager des thèmes aussi importants. La première chose que je voudrais partager avec vous dans ce thème-là, c'est que nous avons été créés. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour adorer. Vous savez, parfois, on se pose des questions sur le but de notre existence, la vie, le sens que ça a véritablement. Eh bien, l'apôtre Paul nous donne une réponse. On le voit un petit peu plus loin dans Colossiens. Épître de Paul aux Colossiens, pardon, chapitre 1, verset 12. Pourquoi j'existe ? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Lisez-le avec moi, s'il vous plaît. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Ne fermez pas le livre, on continuera après. Tout a été créé par lui et pour lui. Ce seul verset de l'Écriture suffit, en définitive, à nous révéler le but de notre existence. Nous avons été créés par lui et pour lui, pour que nos vies entières célèbrent la gloire de son nom. Au sein de toute la création, de toute la perfection de l'œuvre de Dieu, le seul à avoir été créé à l'image de Dieu, c'est l'homme. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que voulait le Seigneur ? Il voulait une famille. Une famille avec des enfants qui l'aiment, qui le suivent, qui observent ses lois, ses commandements. Il voulait une famille avec des enfants qui glorifient son nom. Et c'était la condition de l'homme et de la femme avant la chute dans le jardin d'Éden. Et vous savez comment il y avait cette communion profonde entre l'homme et son Créateur. Mais vous savez aussi qu'à cause du péché qui est entré dans le monde, cette relation, elle a été brisée. Dieu a été obligé de se séparer de la création. L'apôtre Paul dit ceci, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Même pied d'égalité pour tous. Depuis ce moment-là, depuis cet instant-là, l'homme est incapable de lui-même d'accomplir, en tout cas de rentrer, de réaliser le plan éternel de Dieu dans sa vie, qui était celui de glorifier son nom. Il fallait une œuvre de réconciliation. On ne pouvait pas le faire. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, vous savez, quand on chantait ce chœur tout à l'heure, grâce infinie, mais je me dis, mais le peu que l'on peut réaliser, les chants merveilleux que Dieu permet d'inspirer, c'est déjà extraordinaire. Extraordinaire. Ce petit voile qui est levé sur la grâce infinie de Dieu bouleverse nos vies et notre existence. Nous ne pouvions pas le faire, il l'a fait pour nous. Et c'est cette invitation qui est là, derrière moi. Soyez réconciliés avec Dieu. Lisons la suite ensemble. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Il faut une œuvre de réconciliation, et c'est ce qui a été rappelé au travers des chants, au travers de certaines louanges, au travers du partage du pain et du vin. La croix du calvaire est le seul moyen pour quiconque a envie de re-rentrer dans le projet et le dessein éternel de Dieu, que sa vie glorifie son nom. Aucun autre moyen n'a été donné. Jésus-Christ, le Sauveur. Oh, qu'il soit au centre de nos vies, au centre de toutes nos rencontres, et que personne ici ce matin ne se prive de la grâce de Dieu. Le sang de sa croix. Je voudrais préciser un point important sur lequel je m'arrête un peu. C'est que sans ce passage obligé à la croix du calvaire, sans repentance, sans décision personnelle de changer véritablement de vie, sans la nouvelle naissance, c'est-à-dire tout ce qui est l'action de l'Esprit qui, en définitive, nous recrée à nouveau, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et sans la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas être favorables devant Dieu. Il est indispensable de passer par la nouvelle naissance, non seulement pour le salut de notre âme, bien évidemment, mais aussi pour entrer à nouveau dans ce plan éternel de Dieu. Il ne faut pas que nos moments de louange et nos moments d'adoration, je fais une parenthèse parce que je l'avais vraiment sur le cœur, il ne faut pas que ces moments-là masquent une vie qui ne soit pas en règle avec Dieu. Repentons-nous avant de l'adorer. Nous ne pouvons pas nous approcher de lui avec un cœur qui serait éloigné de lui. Vous savez, parfois, au travers de la musique, au travers du chant, au travers d'une certaine atmosphère, nous pouvons être amenés à louer et être peut-être même sincères dans notre cœur et à le célébrer. Faisons la paix avec Dieu. Mettons notre vie en règle avec lui. Et ensuite, nous pourrons l'adorer. Humilions nos cœurs en reconnaissant ce que nous sommes et en reconnaissant qui il est. Et cela va nous amener à notre deuxième partie. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Et aussi, ce que le Père recherche, c'est de véritables adorateurs. Et dans cette rencontre du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine, il y a cette révélation que je voudrais relire avec vous dans Jean au chapitre 4. Alors si vous ne connaissez pas ce texte, relisez tout le chapitre chez vous, mais ce matin nous allons lire juste à partir du verset 19. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Verset 21. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. » Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Le véritable adorateur, Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'adorent. Et comment ? En esprit et en vérité. En esprit, ça rejoint tout ce que nous venons de dire. C'est la fameuse rencontre de Jésus avec Nicodème. Nul ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Personne, s'il n'a pas expérimenté la repentance, le pardon des péchés, le salut au travers du sacrifice de Jésus-Christ, ne peut être un véritable adorateur. C'est cela que veut dire adorer Dieu en esprit. Je suis né de nouveau, je suis une création nouvelle, je suis rétabli entre guillemets, dans les conditions initiales. La relation est à nouveau établie, ce cœur à cœur avec Dieu est désormais possible, et nous l'avons tous expérimenté. C'est vrai que quand nous découvrons le Seigneur, lorsque nous ouvrons notre cœur et qu'il fait de nous une nouvelle vie, nous réalisons que le dessein de sa vie, pour chacun d'entre nous, était que nos vies servent à la gloire de son nom. Mais sans ce passage, nous ne pouvons pas le réaliser, surtout le vivre. Qu'est-ce que signifie adorer aussi en esprit et en vérité? Le véritable adorateur, c'est celui qui adore partout, quel que soit le lieu. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Adorer en esprit signifie que nous pouvons l'adorer n'importe où, n'importe quand, mais surtout pas n'importe comment. Que ce soit à l'église, que ce soit dans notre chambre, que ce soit sur notre lieu de travail, dans la voiture, nous pouvons être en esprit, en communion avec Dieu qui remplit les cieux et la terre. Ça vous dépasse ? Moi aussi. Mais nous pouvons apprendre, comme cela a été chanté, à vivre selon son esprit. Dieu avait sanctifié le temple, vous vous rappelez du temps de Salomon. Dieu avait dit ceci en exaucant un petit peu la prière de Salomon, il avait dit ceci: « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée, je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai là toujours mes yeux et mon cœur. » Dans 1 Roi, chapitre 9, verset 3. Le temple de Dieu, nous le savons, il n'est plus à Jérusalem. Il est où le temple de Dieu? Eh oui, dans le corps de chaque enfant de Dieu. Il est écrit ceci: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 19, si on a le temps, on le lira après ensemble, je voudrais voir quelque chose avec vous. Adorer Dieu en esprit et en vérité signifie que c'est une adoration intérieure, une attitude de cœur. C'est important de le dire, et le Seigneur nous l'a rappelé ce matin au travers d'un don spirituel, on ne se moque pas de Dieu. Et Dieu a horreur des hypocrites. Et nous savons avec quelle sévérité le Seigneur Jésus a dénoncé l'hypocrisie, même parmi les chefs religieux. Disons-le quand même, parce que quand on lit les versets comme ça, parfois on peut être... Il le dit avec sévérité, mais aussi avec beaucoup d'amour. Parce que peut-être moi, je n'aurais pas le courage de vous dire que vous êtes un hypocrite. Hein, et nous pouvons bénir le Seigneur qui nous aime tellement que lui nous dit les choses avec vérité. Seigneur Jésus a dit ceci: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, verset 7. Les Juifs de ce temps-là avaient réduit toute la dimension de l'adoration à des formes purement extérieures. Et cela aussi peut être un danger pour nous. On peut adorer Dieu par les chants, par les prières, par les offrandes. On peut être très actif dans le royaume de Dieu et pourtant avoir un cœur qui soit éloigné de lui. Adorer Dieu en esprit, c'est quelque chose de bien plus profond qu'une simple participation à des rituels, quels qu'ils soient. C'est une adoration intérieure. Bien sûr, d'où va découler une adoration extérieure? Mais ça prend source d'abord dans notre cœur. Nous devons faire attention à toutes les formes extérieures. Vous savez, notamment, au travers, je voulais en parler un peu plus ce matin, peut-être nous le ferons une autre fois parce que c'est important, mais dans le domaine de la musique et du chant, c'est important de pouvoir réaliser, vous savez, il y a des formes extérieures qui peuvent parfois beaucoup plus exciter, entre guillemets, le corps, notre corps physique, les chants, les cantiques, cette musique que nous voulons pour le Seigneur, elle doit avoir que seul but d'élever nos âmes vers le Seigneur. Ce qu'a besoin notre monde, c'est de connaître Dieu tel qu'il est, un Dieu saint. Adorer Dieu en esprit, c'est une adoration extérieure qui est en parfaite harmonie avec une adoration intérieure. Ça n'exclut pas les manifestations de joie, au contraire, puisqu'il y aura de la cohérence si à l'intérieur de moi, je loue et j'adore le Seigneur, s'il y a vraiment cet élan de cœur pour lui, ça va se manifester. Mais c'est toujours dans le cadre où nous sommes conscients de ce qu'il est, le Dieu, le grand roi des rois, et ce que nous sommes, ces créatures, des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. C'est ça la véritable adoration. Je voudrais lire quelques versets avec vous dans le psaume 95. Psaume 95. Oui, ce que le Père recherche, c'est de véritables adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, qui sont vrais devant lui. Psaume 95, que je pourrais dire un peu ce qui peut représenter la véritable adoration et comment nous pouvons nous approcher de lui. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. » Regardez verset 6, la véritable adoration. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. » Amen. Alléluia. Vous vouliez que je lise la fin, hein? Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, oui, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ça l'évangile, la grâce de Dieu, le ciel ouvert pour quiconque a le désir, oui, de se repentir, demander pardon, mettre sa vie en règle avec Dieu, afin de pouvoir rentrer dans ce dessein éternel de Dieu. Nous avons été prédestinés à célébrer la gloire de son nom. Je dis juste une petite chose encore sur ce deuxième point. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est l'adorer en conformité à sa parole. La parole, elle est la vérité. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité. C'est lui qui est la vie. Attention de ne pas adorer autre chose que le Seigneur. Et l'objet de notre adoration doit être le fondement de notre vie. L'adoration, elle doit aller de pair avec la méditation de la parole de Dieu. Nous devons grandir dans la connaissance. Jésus l'a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Et c'est uniquement au travers de la parole de Dieu que votre connaissance de l'Éternel va grandir, afin de pouvoir l'adorer, lui le seul et unique vrai Dieu. Sauver pour glorifier notre Dieu. Nous avons vu en premier que nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons vu très rapidement que le Père recherche de véritables adorateurs. Et je voudrais terminer par un troisième point. C'est que toute notre vie doit servir à la gloire de son nom. Toute notre vie pour le glorifier. Le chrétien ne peut pas se différencier des non-croyants juste par le fait que le dimanche matin, au lieu d'aller à Intermarché, faire la grasse matinée, faire du sport, il va à l'église. Ça va bien plus loin que ça. Le croyant, le véritable chrétien, c'est dans tous les instants de sa vie qu'il est prédestiné à célébrer la gloire de son nom. Bien sûr qu'il y a un temps tout à fait particulier. Et j'aime à rappeler que quand on est seul, on a beaucoup plus de moments seuls, entre guillemets. C'est important aussi d'avoir un moment seul avec le Seigneur, mais quelle richesse de pouvoir nous unir avec les frères et sœurs. Nous sommes tous enfants de Dieu pour célébrer son nom. On ne peut pas faire ça avec beaucoup de gens avec qui nous vivons toute la semaine, avec des collègues de travail, avec même des membres de notre famille. Quelle grâce! C'est un moment merveilleux. Mais pourtant, ce n'est pas le seul moment qui doit être pour notre vie, le moment où je l'adore. Le moment de louange, c'est vrai que je n'ai pas fait peut-être cette distinction. Des fois, c'est difficile de tracer vraiment un chemin, vous savez, entre la louange et l'adoration. La louange, ça va être plutôt tout ce qui va être extérieur, vous savez, chanter, exprimer, la joie, tout ça. L'adoration, elle peut être très silencieuse. Nous l'avons vu, je me prosterne, je me munis devant le Seigneur. Un temps de silence peut être un temps parfait pour l'adoration. Mais c'est vrai que dans l'ordre un petit peu des choses, comme nous l'avons lu, c'est pour ça que nous avons lu le psaume 95, il y a, c'est vrai, peut-être commencer par mettre notre vie en règle avec Dieu, en tout cas il faut le faire si ce n'est pas le cas, mais c'est vrai que c'est bon de venir avec action de grâce et de remettre sa vie devant le Seigneur, mais après, avec les louanges, nous élevons le nom du Seigneur, nous le louons pour ses bienfaits, c'est vrai pour notre propre vie, tout ce qu'il fait chaque jour, comptons les bienfaits ensemble, mais ensuite, pour arriver à ce temps particulier de l'adoration. Tous les instants de notre vie doivent servir à célébrer le nom de l'Éternel. Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes appelés à être une lumière dans ce monde qui en a tant besoin. Quelques domaines très rapidement qui sont des exemples. Toute ma vie pour glorifier Dieu, en prenant soin, par exemple, de mon corps physique. C'est un moyen aussi de glorifier l'Éternel, de glorifier cette création. Je vous relis le verset, on ne va pas le chercher ensemble, mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Respecter mon corps, c'est aussi une manière de célébrer la gloire de son nom. Un autre domaine, quand je travaille, le travail. Eh oui, parce que nous mettons en avant les ministères particuliers. C'est vrai que les pasteurs qui sont engagés, des ministères particuliers, les anciens, tout cela. Oui, ça paraît évident que c'est un travail, une peine en tout cas, qui sert directement à célébrer la gloire du Seigneur. Mais je peux vous dire, quel que soit le métier que vous faisiez, je ne sais pas si le français ne devait pas être très bon, mais quel que soit votre métier, voilà, c'était plus simple, quelle que soit votre profession, vous êtes appelé à célébrer la gloire du nom de l'Éternel, je dirais presque au même titre qu'un prédicateur, par vos vies. Votre témoignage, ce que vous apporterez ou n'apporterez pas. Mais là aussi, c'est un des domaines où nous sommes appelés à glorifier le nom de l'Éternel. Esclaves, dit l'apôtre Paul, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, parce que vous révérez le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour des hommes, car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ. Alléluia. Colossiens, chapitre 3, verset 22. On peut aussi célébrer le nom de l'Éternel au milieu même des calomnies, où des gens sont là pour dire de mauvaises choses sur nous. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. L'apôtre Paul va très bien résumer ce que je viens de vous dire par ces paroles. Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est un bon résumé ? J'avais choisi le bon verset ? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Il nous a prédestinés, bien avant la fondation du monde, pour que nos vies servent à célébrer la gloire de son nom. Je me suis senti petit pour vous partager ces choses, mais c'était quelque chose d'extrêmement fort, je pense, la pensée du Seigneur pour nous ce matin, afin que lorsque nous nous approchons de lui, que ce soit dans ces temps de culte qui sont des temps particuliers, mais tout au long de notre vie, chaque jour où que nous soyons, nous puissions réaliser que Dieu veut que nous le servions et que nous le glorifions par nos vies, par notre attitude, par nos comportements. Ce but que Dieu s'était fixé pour que nous célébrions la gloire de son nom, eh bien, il trouvera son accomplissement, c'est sûr, déjà ici-bas sur la terre, mais le plein accomplissement sera dans le ciel lorsque nous serons toujours avec lui dans les cieux. Et je voudrais terminer par ce texte avec vous dans Apocalypse chapitre 5. Nous avons été créés, oui, pour adorer notre Dieu. C'est vrai que le péché, l'ennemi a voulu contrecarrer ce projet, comme nous l'avons dit. Jésus a été cette œuvre de réconciliation pour nous. Nous avons déjà ici-bas sur la terre, c'est quelque chose qui nous impressionne à chaque fois d'imaginer que déjà ici-bas sur la terre, nous sommes bénis de tant de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et ce plein accomplissement, il se fera dans les cieux. Apocalypse 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une lampe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Verset 11, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Verset 13, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Prédestinés dès la fondation du monde à célébrer la gloire de son nom.